entrevue.
De 2006 à 2009, la province du Nouveau-Brunswick a investi plus de 40 millions de dollars pour l'achat d'ordinateurs pour les enseignants et les élèves, le mentorat et le soutien technique. Nous nous entretenons aujourd'hui avec Marc-André Moret de la Direction de l'apprentissage électronique et des technologies au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Depuis 2006, le Nouveau-Brunswick fait figure de pionnier avec la distribution d'un ordinateur portable à tous ses enseignants et l'accès sans fil à l'Internet haute vitesse dans toutes ses écoles. Cela s'est réalisé dans le cadre de l'application d'un plan d'action provincial. Pouvez-vous nous parler de ce plan?
Dans le cadre du lancement du plan Les enfants au premier plan de notre ministère, un engagement visait justement à assurer que les enseignants aient les outils pour innover. Alors, ce plan a permis par le passé de piloter ou d'expérimenter les portables en salle de classe avec élèves. Puis par la suite, étant donné les résultats justement, nous avons cru bon et nécessaire, pour ne pas dire essentiel, d'offrir aux pédagogues l'outil de l'heure en matière de technologie, c'est-à-dire un portable. Donc, tous les enseignants, tout le personnel enseignant du Nouveau-Brunswick maintenant a un portable à sa disposition.
Quel était l'environnement technique et logiciel prévu dans ce plan?
Pour nous, c'était important d'offrir une suite qui permettait de traiter, communiquer, publier, présenter l'information. On a offert la suite Office à tous nos enseignants. Mais lorsqu'est venu le temps d'aller dans des décisions beaucoup plus pointues, on a toujours cru bon que c'était le pédagogue, l'école, le district scolaire qui était le plus près des besoins afin de choisir s'il y avait des besoins de logiciels ou de technologies beaucoup plus précises, donc de par leur budget de fonctionnement interne. À titre d'exemple, on n'aurait pas demandé à tout le monde ou acheté pour tout le monde Inspiration, par exemple, pour en nommer qu'un.
Pour apprivoiser à la fois ce nouveau matériel et ces nouveaux logiciels, comment les enseignants ont-ils été accompagnés?
Nous nous sommes vraiment pris de façon à respecter ou à mettre l'enseignant au premier plan. Nous avons vraiment déployer ou encourager de déployer un perfectionnement que je dirais à la carte. Pour ce faire, justement, chaque district scolaire, chaque école a des ressources humaines, un mentor en utilisation pédagogique des technologies. Puis souvent, qu'est-ce que cette personne-là faisait? C'était de rencontrer le pédagogue selon son niveau, selon son expertise, selon ses compétences en TIC, selon le programme d'études, les disciplines qu'ils doivent enseigner, construisait un plan d'accompagnement à la carte pour vivre des intégrations beaucoup plus efficaces au niveau des TIC. Intégration ciblée au niveau de la réussite des élèves, ciblée sur des résultats d'apprentissage, des programmes d'études. Donc, à ce moment-là, je vous donne un exemple. Si un enseignant choisissait de faire une intégration pédagogique des TIC dans le cadre d'un contexte d'écriture ou de stratégie d'écriture, et puis que soit un logiciel libre ou autre était choisi, que ça soit Word ou des sites Internet comme Mon Bon Patron ou quoi que ce soit, l'enseignant bénéficiait d'un perfectionnement avec le mentor pour se préparer à vivre justement l'expérience d'apprentissage avec ses élèves.
On parle ici d'un passage obligé pour les enseignants. Vous avez eu à faire face à des réticences et des problèmes de motivation à l'occasion.
Absolument, c'est commun. Certaines personnes sont plus ouvertes, d'autres plus réticentes. On a souvent lu ça dans plusieurs recherches, peu importe que ça soit au niveau d'innovation, des technologies, c'est la même chose. J'appelle souvent ces étapes-là les 5 P, parce que souvent le premier P, c'est la pertinence. Il est extrêmement important que le pédagogue voit qu'il y ait une pertinence pédagogique quand vient le temps de choisir toute ressource technique. Pertinence qui doit être vue à ses yeux et non pas aux yeux du ministère ou autre. Pertinence via la réussite des élèves. Mais même si par la suite on remarque, et les mentors m'en parlent souvent, ceux qui accompagnent nos enseignants, même si un enseignant voit une certaine pertinence, la deuxième étape, il y a une peur, une crainte. Est-ce que je vais être accompagné? Il y a autant, pour plusieurs, des fois même un accompagnement émotionnel, de savoir que j'ai un collègue près de moi ou un mentor qui peut m'aider lorsque j'ai besoin d'aide technique ou même pédagogique. Puis par la suite, j'appellerai les trois autres P, l'utilisation personnelle, l'utilisation professionnelle et l'utilisation pédagogique. Alors, comme ministère, avec les mentors, les personnes qui intervenaient, l'important, c'était vraiment de permettre à chaque pédagogue de suivre le processus de ses P, de ne pas sauter d'étape, partir dans un scénario pédagogique sans pour autant avoir vu la pertinence, sans pour autant avoir déblayé certaines craintes, incertitudes techniques ou même pédagogiques, sans l'avoir utilisé personnellement ou même professionnellement était déconseillé. C'est pour ça qu'on avait un processus d'accompagnement et de perfectionnement à la carte.
Comment des enseignants peuvent-ils aménager leur horaire de cours et de préparation de cours pour recevoir en plus de leurs tâches ce perfectionnement?
Nous avions attribué un certain budget de perfectionnement à chaque district scolaire, c'est-à-dire à leur école. Puis, en fonction des besoins, l'école gérait un budget de perfectionnement qui voudrait dire, à certains moments donnés, de libérer un enseignant pour du perfectionnement, justement. Donc, oui, une des variables ou des besoins le plus important qui fut mentionné par la recherche, c'est le besoin de temps. De temps pour s'approprier des tics de la part de nos pédagogues, de la part de nos enseignants. Donc, il a été important pour nous d'assurer que les districts avaient les outils, les mécanismes pour donner et accorder du temps en privé, de sorte que le perfectionnement puisse se faire à la carte et puis que les élèves et l'enseignant puissent vivre une situation d'apprentissage avec les tics fructueuses.
Au-delà de l'accompagnement offert pour apprivoiser la technologie, on attend aussi une certaine forme de production et d'échange de matériel de la part des enseignants, que ce soit de simples notes de cours jusqu'à un site web.
La partie qui était fortement recommandée, c'était bien sûr de nos jours avec le Web 2.0, c'était l'aspect collaboration, coopération. Nous avions, pour certaines écoles, ils avaient des cybercarnets. Les enseignants échangeaient en toute transparence leur scénario du jour, leur pratique, le projet des élèves. Nous avons, à titre d'exemple, l'école de Claire, le centre d'apprentissage du Oumadawaska à Claire, qui est un exemple reconnu même à travers le monde de par ses pratiques innovantes en matière d'utilisation pédagogique d'éthique. D'autres utilisaient des sites web, d'autres dans le cadre d'échanges entre écoles, entre mentors. Et également, nous avions lancé, par l'entremise, bien sûr, encore une fois, de notre plan Les enfants au premier plan, un centre de ressources virtuelles dans le portail du personnel enseignants du Nouveau-Brunswick, dans lequel les enseignants pouvaient déposer, partager, s'échanger en toute liberté les produits, les ressources qu'ils avaient créées, complètes ou non, de sorte à faire cheminer la représentation, même les projets ou les productions des enseignants dans le cadre de ce projet-là. Je pourrais dire que dans peu de temps, on s'est vu avec un répertoire ou une banque d'environ 2 à 3 000 objets de toutes sortes, que ce soit des liens, des tutoriels, des procéduriers, des plans de leçons, des exemples d'évaluation, des exemples de pratiques qui se sont échangés de par le personnel qui vivait le projet.
On a vu comment le soutien pédagogique était assuré. Qu'en est-il du soutien purement technique, configuration des appareils, des équipements?
Tout comme l'accompagnement pédagogique, nous avions pour l'accompagnement technique des personnes ressources. Vous savez, il était clair quand nous avons fait notre recherche, nous avons recensé les écrits, nous avons visité des projets dans l'État du Maine, des projets au niveau du Québec, et puis qu'encore une fois, le succès de tout projet, ce sont les ressources humaines. Donc, dans le cadre du projet, les ressources humaines au niveau du soutien technique furent offertes aux districts et aux écoles. Les installations techniques, les routeurs, les points d'accès sans fil, même au niveau des écoles qui avaient à ce moment-là un projet portable, un technicien était à l'école disponible parce qu'on voulait qu'il n'y ait pas de délai dans l'apprentissage s'il y avait un bris technique. À cet effet, à titre d'exemple, nous avions même suggéré par notre visite à l'État du Maine des ordinateurs de rechange. Alors, si un élève vivait un bris ou avait un pépin technique à ce moment-là, on pouvait lui remettre une machine en attendant que le technicien sur place ou au district scolaire, selon l'école, faisait la réparation de son appareil. Même chose pour les enseignants. Les ressources humaines au niveau technique et au niveau pédagogique ont été la clé du succès dans ce projet-là.
Le projet ministériel est maintenant terminé. Comment avez-vous assuré la continuité des pratiques qui ont été développées?
Nous avons remis le projet aux personnes qui peuvent vraiment en faire la différence. c'est-à-dire aux districts scolaires et aux écoles. Au Nouveau-Brunswick, la gestion du matériel informatique, les choix au niveau des salles de classe, au niveau des écoles, appartient aux districts scolaires. Donc, ayant étudié, analysé de plus près l'impact, ayant vu qu'une utilisation judicieuse des technologies dans un contexte pédagogique favorable pouvait amener à des impacts intéressants au niveau des apprentissages, nous avons continué à recommander aux districts scolaires et aux écoles de meubler, en fonction de leur budget, bien sûr, les salles de classe d'ordinateurs portables. Je ne pourrais vous dire exactement combien d'écoles ont un accès direct. Je pense qu'on parlerait plutôt en fonction de classe, parce que les districts ont quand même tendance, et les écoles, à cibler des enseignants et des classes qui serait propice à un environnement semblable. Vous aviez mentionné justement tantôt des choix. Alors, certains enseignants, de par leur pratique pédagogique, de par leur affinité au niveau des technologies, ça leur permet de tirer profit des nombreuses technologies qui sont disponibles soit gratuitement ou par le ministère ou le district scolaire. Donc, ce sont des environnements favorables à l'amélioration des résultats des élèves.
Dans la phase d'évaluation du projet, quels impacts ont pu être observés sur la qualité de l'enseignement ou de l'apprentissage?
Le défi dans ce contexte-ci, pour avoir des données scientifiques, est d'établir le parallèle direct entre la variable portable et le résultat de l'élève, qui est extrêmement complexe et difficile, étant donné que ce ne sont pas les deux seules variables dans le contexte d'un enseignement ou d'un environnement d'enseignement et apprentissage. L'enseignant est une variable, l'élève est une variable, son âge, les pratiques pédagogiques sont une variable également. Donc, il est extrêmement difficile de faire un parallèle direct et d'associer une cause à effet seulement et uniquement à cause que nous avons ajouté un portable. Toute personne pourrait nous dire, si vous mettez les ressources humaines comme vous y avez mis, si vous fournissez le perfectionnement comme vous l'avez fait, vous auriez obtenu les mêmes résultats sans portable. Alors, on a des témoignages, on a des impacts, quand on visite les écoles, quand le ministre visite les écoles, il a les témoignages des parents, des enfants, des enseignants qui ne voudraient pas revenir. À ce moment-là, ce sont les données qu'on utilise pour dire qu'on est sur le bon chemin.
Pour conclure, quelles seraient les principales leçons apprises lors de cette expérience?
Vous savez, les technologies sont vraiment, j'oserais utiliser l'expression, une cible en mouvement. En 2004, on parlait de portable. Aujourd'hui, si on était pour dire quel choix un gouvernement, une école devrait faire comme technologie, on aurait l'embarras du choix. Est-ce qu'on choisit un netbook? Est-ce qu'on choisit des appareils mobiles? Est-ce qu'on choisit un portable? Ensuite, quel serait le ratio et tout ça? L'apprentissage, c'est vraiment le pédagogue et sa pédagogie qui va faire la différence. De façon générale, c'est ce que nous avons appris. L'autre chose que nous avons appris, c'est qu'il est très facile pour certaines personnes un peu plus technocentriques de vouloir sauter sur des courants TIC, des nouvelles technologies, des nouvelles vagues, que ce soit les tableaux interactifs, que ce soit le phénomène Facebook, Twitter et tous ces outils ou ces appareils d'échange et de collaboration via le Web 2.0. Et puis souvent, c'est peut-être d'oublier de l'associer à une raison ou à un objectif d'amélioration des résultats d'apprentissage des élèves. Souvent, c'est l'inverse qui se produit. Le réflexe, l'accompagnement des enseignants, le réflexe du professionnel de l'éducation devrait toujours être, si la technologie est la solution, quelle était ma question? Quel problème que je souhaite régler? Quel résultat d'apprentissage je vise? Quel impact sur la réussite des élèves je souhaite viser? Alors, à ce moment-là, quelles seraient à ma disposition aujourd'hui les technologies qui pourraient justement venir accompagner l'enfant, moi-même comme enseignant ou pédagogue, ou nous comme ministère de l'Éducation. Donc, c'est vraiment de mettre la pédagogie en premier, le pédagogue en premier et la technologie en deuxième.
Merci beaucoup, M. Moret, de nous avoir accordé cette entrevue.
Ça me fait plaisir.
Merci.